Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h donc, avec Marie-Agnès Suquet, réalisatrice du documentaire États-Unis, les sacrifiés de la santé, à voir ce soir sur France 5. Il y aura ensuite le journal de la culture d'Hélène Manarino et puis nous recevrons l'écrivain Philippe Génada. Nos indispensables, les westerns limite limite à voir ou à revoir et un documentaire hilarant qui nous plonge dans le quotidien d'une juge d'instruction belge.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Marie-Agnès Suquet.
Bonjour Philippe.
Merci d'être avec nous en direct. Vous signez un documentaire, je l'ai dit, qui passe ce soir dans le cadre des fameuses soirées Le Monde en Face sur France 5. Votre titre, États-Unis, les sacrifiés de la santé. Je vais commencer par ce chiffre monumental. Le système de santé américain, faut-il le rappeler, première puissance économique mondiale, coûte 3500 milliards de dollars par an, l'un des plus chers du monde. C'est plus que le PIB français. Et pourtant, les résultats de leur système de santé sont très mauvais. Espérance de vie, mortalité, ils sont loin d'être en tête.
Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs cette première information qui nous a donné envie de nous plonger en fait sur la question du système de santé américain. C'est que l'année dernière, pour la troisième année consécutive, les États-Unis ont encore perdu en espérance de vie. Donc c'est l'un des pays industrialisés, vous l'avez dit, l'un des pays les plus puissants au monde. Et pourtant, leurs habitants, leurs citoyens, ces citoyens sont en train de mourir de plus en plus jeunes. 78,6 en moyenne contre 80,4 pour les pays de l'OCDE. Donc c'est quand même important.
Les pays de l'OCDE, c'est les pays industrialisés. La première scène est très très forte. Ça se passe au milieu de la nuit. Des hommes, des femmes, des enfants qui dorment dans leur voiture et qui chuchotent. Et au petit matin, ils font la queue. Tout ça pourquoi ?
Pour avoir des droits à des soins de santé gratuits. Ouais. C'est une association qui s'appelle RAM qui propose ces cliniques mobiles gratuites. Donc elles se dispersent au fur et à mesure de l'année dans les coins les plus reculés des États-Unis où il manque énormément d'établissements hospitaliers et de praticiens, mais aussi de plus en plus dans les villes. Mmh. Et en fait, ces gens-là qui n'ont pas les moyens en fait d'aller chez le médecin ou d'aller à l'hôpital, d'aller chez le dentiste ou de se payer des lunettes, font parfois des centaines de kilomètres, dorment 24 heures avant, voire 48 heures avant parfois dans leur voiture, pour être sûr de dégoter un ticket qui leur permettra de voir un médecin. La plupart viennent pour voir des ophtalmologistes et repartir avec une paire de lunettes gratuites ou pour se faire soigner les dents parce qu'il y a un vrai problème de santé dentaire aux États-Unis.
Alors votre documentaire parle d'un point aveugle du système de santé américain. Aujourd'hui, il y a 28 millions d'Américains qui ne sont pas assurés. Contrairement à la France, il n'y a pas de sécurité sociale automatique. Les seuls à bénéficier d'un système de santé public qui existe sont les plus modestes et les personnes âgées de plus de 65 ans. Alors, je vais schématiser. Ces 28 millions d'Américains n'ont pas d'assurance santé car ils ne sont pas assez riches pour en prendre une privée. Et ils n'ont pas non plus droit à la sécurité sociale gratuite car ils ne sont pas assez pauvres. Votre premier témoin, c'est une jeune femme de 30 ans. Elle s'appelle Karine. Elle est diabétique. On l'écoute.
Un taux de sucre normal, ça tourne généralement autour de 100. Là, le mien est à 405. C'est extrêmement élevé. L'unique moyen de le faire redescendre, c'est de prendre de l'insuline. C'est comme l'eau ou comme l'air pour moi. C'est une question de vie ou de mort. Sans insuline, je mourrais au bout de quelques jours. Ça ne prendrait pas longtemps.
Karine a 30 ans et vit avec son diabète depuis ses 12 ans. Son traitement, qui en France serait pris en charge à 100%, coûte très cher aux États-Unis.
Quand je vais à la pharmacie, ils me demandent $1000 pour de l'insuline. Alors je ne la prends pas. La solution que j'ai trouvée pour le moment, c'est de me rationner. C'est très dangereux pour ma santé. Je sais qu'il faudrait que j'arrête de faire ça.
Est-ce que c'est un cas rare, extrême, ou est-ce que ce cas est représentatif de la situation en Amérique ?
Ah non, c'est un cas qui est absolument courant et c'est ça qui est terrible. Il y a une vraie crise pour les diabétiques aux États-Unis. L'insuline est devenue hors de prix. Pour vous donner une idée, sur les 10 dernières années, le prix de l'insuline a été multiplié par 3. Ouais. L'un des médicaments que Karine utilise comme une insuline qui est produit par le géant pharmaceutique Eli Lilly. Mmh. Aujourd'hui, on va dire ce qu'on appelle une boîte en gros. d'insuline qui peut durer pour certains une dizaine de jours, pour d'autres un mois en fonction de leurs besoins. Elle coûte $275. Ouais. En 1996, elle coûtait $21.
Attends, il y a quelque chose que j'ai pas compris dans votre documentaire. Vous donnez ce chiffre. Le traitement annuel de l'insuline aux États-Unis, c'est $2,700 par an. Ça fait $225 par mois. C'est toujours trop. Mais le salaire moyen aux États-Unis, c'est $4,180 par mois. C'est le double d'en France. En France, j'arrive pas à comprendre pourquoi, avec un salaire moyen aussi élevé, on n'arrive pas à s'acheter de l'insuline.
Parce qu'en fait, il n'y a pas seulement l'insuline à acheter. La plupart des diabétiques, ils ont une assurance santé. Donc, ils payent tous les mois ce qu'on appelle des premiums, un forfait mensuel qui est très élevé. Karine, par exemple, son forfait mensuel coûte $700. Oui. Et pourtant, elle n'est pas couverte pour son insuline. Et puis, il y a l'insuline qu'il faut payer. Et puis, il y a aussi toutes les équipements à côté, les petites bandes pour tester son taux de sucre. Une boîte de 50, lui, coûte de 50 petites bandelettes, lui coûte $50. Oui. C'est tout, et elle en a pour $1,200 de bandelettes par an.
J'ai bien compris, mais ce qui est très frappant dans votre sujet, c'est qu'aux États-Unis, les salaires sont deux fois plus élevés qu'en Europe. Et justement, en Europe, est inclus dans le faible salaire le fait qu'on soit protégé. Vous comprenez ma question ?
Oui, tout à fait, mais c'est encore une fois, c'est une moyenne. Karine, par exemple, elle est freelance, elle écrit des papiers pour des blogs, elle vit en Géorgie, dans un état qui n'est pas extrêmement riche, dans une petite ville assez rurale. Son mari Eric, il fait du marketing pour une entreprise qui vend des caravanes. Ils n'ont pas du tout un salaire mirobolant, et surtout la moitié de leurs revenus passe dans l'assurance santé.
Et alors, ce qu'il faut raconter aussi, c'est qu'en face, il y a l'organisation du système de santé américain. Vous avez fait parler un ancien cadre d'une compagnie d'assurance. Maintenant, il est révolté et ce qu'il dit est terrible.
À l'époque, mon travail, pour moi comme pour tous mes collègues d'ailleurs, c'était d'atteindre un objectif, rendre nos actionnaires encore plus riches. Les actionnaires sont les gens qui comptent le plus dans ces entreprises, ce ne sont pas les patients. Dans mon domaine, refuser de payer le traitement d'une personne, c'est une question de vie ou de mort. Vous avez le pouvoir de déterminer qui peut vivre et qui meurt. Pour moi, c'est se rendre coupable de meurtre.
Et ce qui est complètement dingue et que j'ai découvert en voyant votre documentaire, c'est qu'en 1945, quand le président Truman veut lancer un système de sécurité sociale comme ce qui s'est fait en Europe et en France, c'est l'association des médecins américains qui s'y est opposée. Et là, récemment, la sécurité sociale pour tous faisait partie du programme d'Obama, qui a été élu pour la première fois en 2008. En 2010, l'Obamacare est signé. 23 millions de citoyens supplémentaires sont désormais assurés. Et alors, selon la nouvelle loi, chaque citoyen doit avoir maintenant une assurance médicale sous peine d'amende. Or, vous donnez le nombre de morts, 43 000, pour cause de citoyens non assurés. On ne comprend rien, la loi n'est pas appliquée. Ou alors, pour quelles raisons ne sont-ils pas assurés alors que c'est désormais dans la loi ?
Parce que l'amende était assez minime, c'est-à-dire qu'on est sur autour de $1,000 pour un citoyen qui n'est pas assuré. Et surtout que depuis que Donald Trump a été élu, il a tout mis en œuvre en fait pour annuler l'Obamacare. Il est contre l'Obamacare depuis le début, il a fait campagne contre ça, et donc il a vidé de sa substance l'obligation pour tout Américain de s'assurer. C'est-à-dire qu'il a réduit cette taxe à zéro. On voit que depuis qu'il a passé cette loi, le nombre de non-assurés aux États-Unis augmente. Dans les non-assurés, il y a aussi tous les sans-papiers. Ouais. Il y a aussi toutes les personnes qui, par leur travail, n'ont pas accès à une assurance santé, puisqu'il faut savoir qu'un Américain sur deux a une assurance santé via son travail. Donc, ces 45 000 personnes qui meurent chaque année, c'est par manque d'accès aux soins. C'est tout un système qui est conçu comme ça. C'est un système qui est privé et vraiment dont le but ultime, comme le dit Wendell Potter, que vous avez mis à l'antenne, c'est de faire du profit. Et ça me permet de rebondir sur ce que vous avez dit sur l'association des médecins américains qui s'est opposée déjà en 1945 à la santé universelle pour tous. C'est parce qu'ils ne voulaient pas que le gouvernement puisse limiter leurs tarifs.
D'accord. On va continuer à parler avec vous parce qu'il y a un système que j'ai découvert, je suis tombé de ma chaise, c'est le système des codes, il y a même des codeurs dans les hôpitaux. Qu'est-ce que c'est ? Vous nous racontez ça juste après une pause. Marie-Agnès Suquet sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Marie-Agnès Suquet qui signe un documentaire passionnant qui passe ce soir sur France 5. États-Unis, les sacrifiés de la santé sont les gens qui ne sont pas assurés, soit parce qu'ils ne sont pas assez riches, je schématise, pour prendre une assurance privée, soit parce qu'ils ne sont pas assez pauvres, parce que les très pauvres ont droit, ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté aux États-Unis ont droit à la sécu, mais eux ne sont pas assez pauvres pour y avoir droit. On va parler de l'hôpital et du système de l'hôpital américain. C'est absolument glaçant. Il y a des témoignages aussi très poignants dans votre documentaire. Un témoignage qu'on va entendre, c'est une maman qui a perdu sa fille, qui avait d'abord un caillot de sang dans la jambe. Sa fille va aux urgences, elle quitte les urgences et ensuite elle retourne dans un autre hôpital, ou sinon le même, parce qu'elle a fait une embolie pulmonaire. Et c'est la maman qui raconte.
Je la tenais dans mes bras, contre moi, comme quand elle était bébé. Et je lui ai chanté la chanson que je lui chantais enfant. Je savais qu'ils allaient éteindre la machine et je les ai suppliés. Donnez-moi encore quelques minutes, s'il vous plaît. Et quand la machine a fait son bruit continu, là, la réalité m'a rattrapée. Ma fille était morte. Et pourquoi ? Parce qu'elle n'avait pas d'assurance.
Non, mais là, on n'y croit même pas. Il coupe la machine vraiment devant la mère et il tue la fille devant elle.
Non, c'est pas. Ils ont pas tué la fille. Ils l'ont fait tout en avec l'accord d'Emmy. Si vous voulez, elle était dans un état végétatif et Emmy a décidé de donner ses organes pour sauver la vie d'un autre enfant.
D'accord.
Voilà.
J'ai appris comment ça se passait dans les hôpitaux, je le racontais tout à l'heure un peu, pour gagner de l'argent, pour que les hôpitaux gagnent encore plus d'argent, parce que les hôpitaux sont privés là-bas, ils sont gérés comme des entreprises. Il y a le système des codes, au point même que les hôpitaux engagent des codeurs. Qu'est-ce que c'est ?
Alors oui, ça c'est assez complexe, j'ai essayé de faire simple. Si vous voulez, à l'hôpital, aux États-Unis, chaque service a un coût. Le fait d'avoir une échographie, le fait d'avoir une chambre, tout a un coût. Et donc chaque service a un code.
Ouais.
C'est-à-dire que si vous y allez pour une appendicite, vous allez avoir un code qui sera envoyé du coup à votre assurance privée et qui stipulera le prix que ça coûte.
D'accord.
Pour maximiser leur profit, les hôpitaux engagent ce qu'on appelle des codeurs, donc des gens qui vont être spécialisés, maîtres de ces codes, il y en a des milliers, pour essayer d'optimiser les profits en ce qu'on appelle en upcodant, c'est-à-dire en surcodant. On va vous dire, comme on l'explique dans le documentaire, vous avez une appendicite, vous avez donc un code, et bien ils vont ajouter un code à la facture en disant que vous avez eu des complications,
ouais,
qu'il a fallu faire intervenir l'anesthésiste,
ouais,
un réanimateur, pour que le prix soit plus cher, la facture plus élevée, et que donc l'assureur rembourse plus d'argent à l'hôpital.
Et ce qu'on voit dans votre documentaire qui est absolument dingue, c'est qu'au lieu qu'il y ait écrit sur votre feuille anesthésie, appendicite, complication, surtension, il y a écrit B28 34 52 53 28 4, on ne sait pas ce que c'est et les patients ne savent pas ce que c'est. Et je voudrais juste faire une petite remarque, il y a TF1 qui vient de lancer une nouvelle série médicale qui s'appelle The Resident et c'est justement de cet enjeu de la financiarisation de l'hôpital dont parle en sous-texte cette série médicale. Et puis, vous dénoncez aussi le business des labos pharmaceutiques. Là, c'est complètement dingue, je ne savais pas. Chaque labo, contrairement à la France, peut vendre un médicament au prix qu'il souhaite. Donc, ils font monter les prix. Mais alors, il y a une chose que je ne comprends pas dans votre doc. Si un médicament est facturé deux ou trois fois trop cher, pourquoi il n'y a pas une marque sur le marché qui fait le même médicament en faisant baisser le prix ? Comme le prix des PC qui ne cesse de baisser, le prix des téléviseurs, le prix des voitures, la concurrence fait baisser les prix. Pourquoi ça ne marche pas dans le cas des médicaments ?
Eh bien, je vous explique, c'est parce qu'en fait, il y a un monopole des brevets. C'est-à-dire que les laboratoires pharmaceutiques qui produisent les médicaments multiplient continuellement les brevets pour conserver le monopole de production du médicament. Ils vont changer un rien du tout dans la formule qui, techniquement, ne va pas changer l'effet du médicament, mais qui leur permet de présenter un nouveau brevet devant la FDA, donc l'agence fédérale qui contrôle les médicaments. Exactement. Et du coup, si vous voulez, ça leur permet de prolonger leur brevet et leur monopole sur la production d'un médicament. Si vous prenez l'exemple de l'insuline, par exemple, il y a trois laboratoires pharmaceutiques qui produisent ce médicament à 90% sur le marché américain. Sanofi, Eli Lilly et Novo Nordisk. Et on voit aussi, quand on compare l'augmentation des prix au fur et à mesure des années, qu'ils ont exactement les mêmes augmentations de prix au même moment. moment. C'est-à-dire qu'au lieu de faire jouer la concurrence, ils font du...
Ils montent tous ensemble.
Prix fantôme.
Et voilà. Juste un mot, Sanofi, je me trompe ou c'est français?
Tout à fait.
C'est français. Mais ils en profitent quand même aux États-Unis. Merci beaucoup, Marie-Agnès Suquet. Je rappelle, États-Unis, les sacrifiés de la santé, documentaire signé par vous ce soir dans le cadre des soirées Le Monde en
Très
face
important.
Sur France 5. Merci de l'avoir cité également. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.